Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs, bonjour et bonne année. Revoilà, racontez-nous votre Montpellier. Avec mon invité d'aujourd'hui, nous allons pénétrer dans deux univers différents, quoique très voisins, l'économie sociale et solidaire, et une de ses composantes, une mutuelle. Patrick Jacquot, merci d'avoir répondu à mon invitation. Depuis 2001, vous êtes le président directeur général de la Mutuelle des Motards. Vous y êtes engagé de longue date, comme administrateur dès 1989, puis vice-président et enfin président. En juillet dernier, vous avez pris la tête de la CRES Occitanie. La CRES, c'est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, du nom de Benoît Hamon, alors ministre de l'ESS. Avec votre double responsabilité, dans une entreprise et dans une organisation professionnelle, vous allez nous permettre de mieux savoir ce qu'est ce pan méconnu de l'économie sociale et solidaire. Mais d'abord, vous le savez, nous allons vous prier de nous raconter votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont les lieux à Montpellier, vous habitez depuis une vingtaine d'années, c'est ça, que vous appréciez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Alors, moi, j'habite vraiment en lisière de l'Écusson, du côté de la place Saint-Denis, ouais. Les Halles Lessac, quartier Rondelet. Et on a été rattrapé par l'Écusson.
Oui, parce que maintenant, c'est devenu l'hypercentre,
voilà.
Ce qu'on appelle l'hypercentre. Oui.
C'est ça. Et en tout cas, voilà, ce qui est précieux à Montpellier, c'est de pouvoir circuler à pied, traverser la ville, et puis déambuler et découvrir tous les bâtiments.
Voilà, d'être le promeneur montpellierain.
Aller au cinéma à pied, c'est quand même un privilège.
Bien sûr.
Donc voilà, donc j'affectionne particulièrement voilà, de circuler à pied avec, voilà, moi qui ai des semaines très chargées, un rituel avec mon épouse le samedi d'aller prendre notre café au cœur de Montpellier et de déambuler voilà, ensemble et d'aller faire les courses.
Voilà, et de profiter de la ville.
Et de profiter de la ville et de son offre culturelle qui est d'une... vraiment d'une grande richesse, grande diversité.
Qui contribue à la qualité de vie à Montpellier.
Ah oui, avec quelques lieux qui sont des lieux précieux, qui méritent d'être découverts par les non-montpelliérains, ou en tout cas les...
Ou les visiteurs, etc.
Ah oui, complètement.
Alors, donc vous avez vu la ville beaucoup grandir là, depuis une bonne vingtaine d'années. Que pensez-vous de sa forte croissance et de ses diverses mutations humaines et urbanistiques? Comment... un habitant de base, un acteur de la vie montpelliéraine, vous avez vécu ça et comment vous le percevez, cette grande croissance de notre ville?
Bon, les jalons, enfin, le cadre avait été posé lorsqu'il y a eu la piétonnisation et le cœur de Montpellier. Donc on est sur ce même axe.
Oui.
Par contre, effectivement, on voit que la ville se développe, elle grossit, on le voit avec la construction qui est importante, y compris notamment là en direction de la mer maintenant. Donc on se dit que peut-être que le rêve de Georges Frêche
d'aller jusqu'à la mer,
peut-être qu'il se réalisera.
En tout cas, bon, voilà. Il y a au moins l'étape du siège de la Mutuelle des Motards qui est quelque part mi-chemin entre le centre de Montpellier et la mer. Oui.
Effectivement, nous nous sommes rapprochés de la mer, mais surtout nous sommes rapprochés de l'autoroute, de l'aéroport et des gares. Ouais, on voulait être accessible, parce que comme c'est un siège social national. On souhaitait être facilement accessible en transport, en commun ou... en transport individuel.
Alors maintenant, bon, on va parler de la Mutuelle des Motards, comme prévu. L'assurance Mutuelle des Motards, c'est son nom complet, se présente comme la seule société d'assurance créée grâce à des fonds de particuliers. Dites-nous ou rappelez-nous, pour certains de nos auditeurs, dans quelles circonstances particulières la Mutuelle a été lancée en 1983. Que s'est-il passé?
Eh bien, en fait, c'est grâce à la mobilisation des motards eux-mêmes qui ont pris leur destin en main. Puisqu'il faut se remémorer l'époque, fin des années 70, début des années 80, il était très difficile de s'assurer avec, quand on avait une moto.
Ah oui, il y avait des compagnies d'assurance qui refusaient de couvrir les motards.
Soit qui vous refusaient carrément.
Ou alors avec des tarifs.
Ou alors avec des tarifs qui étaient prohibitifs. Parfois, c'était même le même prix que la moto elle-même.
D'accord.
Donc, beaucoup de jeunes qui roulaient sans assurance. Il faut resituer ça dans le contexte de l'époque. C'était le contexte du développement de la moto. Arriver des motos japonaises, etc. Donc,
des motos
ça correspondait
un peu moins coûteuses ou des pratiques de la moto plus.
Des motos japonaises qui ont un peu révolutionné le monde de la moto. Hein, quand la fameuse Honda 750 fours, c'était une moto emblématique qui vraiment était incarnait l'innovation en matière de moto par rapport aux motos européennes de l'époque. Et donc, ça correspond aussi à un moment pour la jeunesse d'émancipation, un moment d'évolution de la jeunesse qui revendique son autonomie, etc. Et la moto a été un vecteur important. Et il se trouve que c'était très difficile de trouver à s'assurer, avec donc beaucoup de jeunes qui roulaient sans assurance.
Avec les risques que ça représentait, y compris pour les tiers, bien entendu.
Pour la société, ce que ça représente pour la société, et puis le fait que des citoyens, des usagers, ne sont pas reconnus comme étant des usagers à part entière, ayant choisi de rouler de se déplacer sur des motos plutôt que dans des voitures. Et donc, les motards ont pris leur destin en main, et ayant remporté la victoire contre la vignette moto, que le gouvernement Giscard de l'époque.
On a oublié cet épisode. Et recherche de ressources fiscales nouvelles.
C'est ça.
Et on va taxer les motos. Et
donc les motards se sont rendus compte que lorsqu'ils étaient fédérés, unis, ils avaient pu remporter cette bataille, puisque lorsque François Mitterrand est arrivé en 81 avec les socialistes, et ils ont tenu leur promesse, qui faisait partie des promesses de campagne, de supprimer, de ne pas instaurer la vignette moto.
Il n'y a pas eu de tentative de la remettre en piste.
Non. Par contre, les motards se sont dit, quand on est fédéré, rassemblé, on peut obtenir des résultats. Donc, on va prendre notre destin en main concernant l'assurance. Et si on crée notre propre assurance? Et c'est grâce à ce premier... c'est une souscription nationale, donc on appellerait ça un crowdfunding.
Ouais.
40 000 membres fondateurs.
Ah oui, c'est
la
énorme.
Mutuelle des motards, ce sont 40 000 membres fondateurs qui ont mis chacun au pot en moyenne 280 francs de l'époque, ce qui était beaucoup, beaucoup d'argent dans les années, début des années 80, et pour créer leur propre mutuelle. Et voilà, plus de 40 ans après, la mutuelle est toujours là, elle continue à se développer. Nous sommes la référence technique en matière d'assurance et de risque des deux roues et de leurs conducteurs. Et aujourd'hui, la Mutuelle, qui a son siège national à Montpellier, en tout cas sur la métropole de Montpellier, puisque nous sommes maintenant basés à Pérolles, pas loin de l'aéroport. Et donc la Mutuelle a porté la preuve. Et d'ailleurs, c'est la Mutuelle des motards qui a apporté la preuve à l'ensemble des assureurs de France et de Navarre, quelle que soit leur forme juridique, que le risque de roue était un risque assurable.
Assurable, on va en parler, bien entendu, donc ce n'était pas hors de portée si on s'y prenait correctement. Par parenthèse, j'avais prévu la question, mais on peut y revenir maintenant. Donc, votre implantation actuelle depuis quelques années, je ne sais pas, 4-5 ans,
Depuis 2016, depuis février 2016, on est à Pérolles.
Votre siège social, un grand et beau bâtiment à Pérolles, là, près de l'aéroport, vous l'avez dit. Et antérieurement, quels étaient les lieux d'implantation de la Mutuelle, pour rappeler ça aux plus anciens de nos auditeurs?
Lorsque nous sommes arrivés sur Montpellier,
il y avait un épisode conditions, de Corse
rancambolesque. On a été accueillis dans les conditions où on était répartis sur plusieurs sites. Un passe Saint-Esprit qui n'existe plus aujourd'hui, hein, puisque c'est la station du Quorum, la station de tram du Quorum, mais également on était à Gigean, enfin bref,
on était sur plusieurs.
Voilà, on était au Beaux-Arts, on a accueilli dans des conditions qui étaient un peu rocambolesques, mais qui nous ont permis de pouvoir nous implanter sur Montpellier, et on était les premiers locataires du parc Euromédecine,
donc
qui était le projet,
là,
voilà,
oui,
le projet sur la route
de
Saint-Gilles-du-Fesc, route de Ganges. Et ensuite, on est devenu propriétaire de notre siège, voilà, quand on s'est développé,
et
ensuite on s'est agrandi sur place, et puis en fait on était sur séparés par une route, par une rue en fait, et cette rue c'était comme s'il y avait vraiment un abîme entre les deux sous-bâtiments, et donc on a décidé de déménager et surtout de se rapprocher de l'aéroport, de la nouvelle gare, de l'autoroute, et de faire construire un bâtiment qui répondait à notre cahier des charges. Rassembler l'ensemble des équipes et que ça puisse aussi accueillir les équipes qui sont en région, puisqu'on est présent dans 38 villes en France. Et donc, ça permet d'avoir un siège social qui soit un lieu où on puisse faire la formation, on puisse se réunir et faire que on puisse se développer et réfléchir à notre développement et à notre avenir à partir d'un endroit où on est tous rassemblés. Et c'est aujourd'hui le cas. Et je dois dire que depuis 2016, on s'y trouve plutôt pas mal.
Pour travailler dans de bonnes conditions.
Plutôt pas mal pour travailler dans de bonnes conditions.
Je remonte un peu dans le temps. Donc, une première année, grosso modo, en Corse. Et pourquoi Montpellier, quand la décision a été prise de quitter ce qu'on appelle l'île de beauté pour aller sur le continent.
Quand on s'appelle la Mutuelle des Motards, qu'on a été créée, portée par la Fédération Française des Motards en Colère, la souscription nationale a été portée par la Fédération Française des Motards en Colère, qui, dont la réputation était quand même un peu sulfureuse, des agitateurs.
C'était costaud, quoi.
Avec les manifestations fin des années 70 et des années 80, contre la vignette, mais aussi contre tous les sujets qui portent atteinte à la libre circulation et au fait de pouvoir circuler en deux roues. C'est vrai que quand on a souhaité déménager, première mandature Mitterrand, il n'y avait pas beaucoup de villes socialistes ou de gauche qui voulaient prendre le risque de braver l'ire soit de François Mitterrand ou à l'époque de Gaston Defferre, qui était ministre de l'Intérieur, et on avait bénéficié de la première loi de décentralisation, qui était portée par Gaston Defferre. Pas beaucoup de villes de gauche qui voulaient prendre le risque de nous accueillir, parce que on a fait ça quand même un petit peu contre, l'establishment,
général,
etc., contre les pouvoirs publics, mais c'était pour défendre le projet, et parce que c'était une question de survie pour le projet, et puis on avait une réputation de gauchistes, on nous appelait un peu les gueux de la route à l'époque, les motards, et donc pas de ville de droite qui, et donc c'est Georges Frêche et son équipe qui
nous ont dit
votre projet on y croit, et vous êtes des gens
avec qui on peut travailler,
on sent que vous êtes engagés sur votre projet, on y croit et on vous accueille, et
considérer aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu tort.
Ils n'ont pas eu tort, c'est plutôt une réussite pour la Mutuelle, et c'est pour ça que lorsqu'on a déménagé, moi j'ai tenu à ce que on reste dans l'agglomération en regard de cet engagement qui avait été celui des collectivités territoriales de Montpellier, de la collectivité territoriale de Montpellier, qui nous avait accueillis et qui a fait qu'on a pu se développer, même si on s'est développé sur nos propres ressources.
D'accord.
On n'a pas eu d'avantages particuliers, mais si ce n'est d'avoir eu un accueil, et que c'était important de le reconnaître et
d'accord.
De rester
sur
Montpellier.
On va plus avant. Alors, concernant la gestion de la Mutuelle des Motards, comment se perpétuent les principes du mutualisme ? Vous l'exprimez ainsi, nous assurons tout le monde de roue, donc nous ne laissons personne au bord de la route, y compris les jeunes. Bon, j'ajoute, pour ma part, contrairement à d'autres, et comment ce grand axe se concrétise-t-il ? On assure tout le monde.
D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Nous, on fait un devis pour tous ceux qui demandent un devis, quelle que soit leur expérience, même s'ils n'ont surtout pas d'expérience, puisque on sait que les jeunes ont beaucoup de mal à se soigner, même encore aujourd'hui, sur un deux roues, et souvent il faut qu'ils passent par les parents, etc. Nous, on fait des devis pour tout le monde. Déjà, c'est une première étape qui fait qu'on reconnaît tout le monde comme ayant la capacité à pouvoir s'assurer avec son deux roues, et donc utiliser son deux roues. Et ça se concrétise très concrètement comme cela, pas de sélection. Alors après, le devis, il convient ou il ne convient pas. Ça, c'est une décision individuelle. Et surtout, on ne laisse personne au bord de la route. Et on a aujourd'hui un fonctionnement qui le permet. Puisqu'on a une centaine de sociétaires, les assurés de la Mutuelle, qui sont désignés par le conseil d'administration pour être délégués bénévoles sur les territoires, en région.
Donc, un contact direct avec les sociétaires.
Voilà, on est en contact avec non seulement les sociétaires, mais aussi, de manière un peu plus globale, le monde de la moto. Et à travers ces délégués bénévoles, mais aussi qui sont aux côtés de nos salariés, qui sont en région, eh bien, on a ce contact direct et on est encore fidèle à la création, à l'origine de la mutuelle, qui est quand même créée par 40 000, la mobilisation de 40 000, l'engagement de 40 000 motards. Tous ne sont pas venus s'assurer à la mutuelle des motards. Donc certains étaient des professionnels même du monde de la moto, mais ils sont restés proches de nous, nous sommes restés proches d'eux.
Les valeurs fondatrices sont toujours là.
Elles sont toujours vivantes. D'accord. À travers ces délégués bénévoles qui sont le lien du conseil d'administration, donc de ceux qui dirigent, qui prennent les grandes orientations stratégiques de la mutuelle, et avec ils sont le lien avec les sociétaires, et de manière un peu plus globale, avec le monde de la moto. Donc, et c'est bilatéral, c'est dans les deux sens. Donc on n'est pas coupé du monde de la moto, bien au contraire,
nous sommes
vraiment enracinés, ancrés dans le monde, et on est vraiment aux côtés de tous les acteurs du monde de la moto, qui d'ailleurs font partie, ces acteurs du monde de la moto, que ce soit des réparateurs, épaparateurs, les experts, etc., ils font partie de la chaîne de valeur de l'assurance mutuelle des motards, parce qu'un assureur, bien évidemment, quand il indemnise, il fait réparer, etc., il s'appuie sur le monde de la moto, et donc on le connaît bien, on a des liens très très proches.
Donc c'est le secteur économique de la moto.
Exactement.
Alors, depuis la création en 83, il y a eu pas mal de changements économiques, sociaux, sociétaux. Qu'est-ce que ça vous a conduit à changer dans le dispositif proposé pour couvrir un certain nombre de risques par la mutuelle des motards, dans les évolutions majeures?
Alors, je vais faire deux niveaux de réponse. Un premier niveau, c'est d'abord ce que ça nous a conduit à ne pas changer.
Oui.
À ne pas changer, c'est notre gouvernance. C'est-à-dire que dans notre gouvernance, on a un conseil d'administration qui est élu par l'Assemblée générale des représentants des sociétaires et ils sont tous 100% bénévoles. Être administrateur à la mutuelle, et moi en tant que président, je suis un président bénévole. Et ça, donc, dans la gouvernance, sachant qu'en plus, on a une vie mutualiste très riche où on organise tous les ans des assemblées régionales. On va à la rencontre des sociétaires en région, les administrateurs, le staff de la mutuelle, les représentants, les salariés locaux de la mutuelle vont à la rencontre des sociétaires et pour leur expliquer ce qui s'est passé pendant une année, quels sont les projets, quelle est la santé de la mutuelle, comment elle se porte, et aussi les projets, et puis leur donner des informations qui leur permettent de désigner leurs représentants pour l'Assemblée générale. Donc ça n'a pas changé depuis la création de la mutuelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance, ou en tout cas, c'est notre vie mutualiste, et on y est très attaché, et on a vraiment tous les ans, à l'Assemblée générale, il y a environ 300 sociétaires qui sont élus pour représenter leur père à l'Assemblée générale, eh bien, on
255 000 sociétaires à peu près.
Oui, c'est ça. Un peu plus de 260 000. Aujourd'hui, on est presque à 270 000 sociétaires, je crois. Mais en tout cas, voilà, on a, à l'Assemblée générale, on réunit environ 300 sociétaires. Ouais. Eh bien, ils sont présents. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 10, 20 sociétaires qui ne viennent pas.
Ah, donc, il y a une espèce d'assiduité.
Donc, il y a une vraie assiduité. Et nos assemblées générales sont des assemblées générales vivantes. Pendant l'assemblée générale, où c'est quand même assez formaté, il y a un certain nombre de résolutions à voter, avec présentation des comptes, prise de parole des commissaires aux comptes, etc. Eh bien, il y a deux heures et demie de questions-réponses. Et ces deux heures et demie de questions-réponses sont vraiment très, très vivantes. On n'a même pas la capacité à traiter toutes les questions qui sont posées par les sociétaires qui sont présents.
C'est comme ça ici aussi, monsieur Jacob, parce qu'on aura...
Voilà.
Alors, justement,
donc c'est très vivant.
Donc
ça, c'était un premier de nos réponses. Et sinon, le deuxième niveau de réponse, c'est être à l'écoute, puisque nous, on est des experts, des usagers fragiles, comme on dit. Et donc, avec l'avènement des vélos à assistance électrique et puis des trottinettes, ou les cyclistes même, qui sont des usagers fragiles, encore plus fragiles que les motards, puisqu'ils ne sont pas forcément équipés comme peuvent l'être les motards aujourd'hui, eh bien, on a, en réponse aussi aux demandes de nos sociétaires, on a créé des contrats, un contrat vélo assistance électrique et un contrat trottinette. Ça nous permet de faire passer des messages en matière de prévention. Parce que ce qui nous caractérise, c'est vraiment d'être, depuis l'origine, à hauteur d'usager. Donc on sait bien ce que c'est que le quotidien des motards. Donc quand on leur dit qu'il faut porter un casque, des blousons, etc., bah quand on dit aux trottinettistes « faites attention, respectez les autres usagers », ou quand on dit aux vélos à assistance électrique « attention, vous avez un VAE, c'est pas pareil qu'un vélo à puissance musculaire, vous vous déplacez pas à la même vitesse, de la même manière, vous êtes plus agile qu'eux », etc. Là, nous, on n'en parle pas par oui dire, parce qu'on le vit et on a 40 ans d'expérience en tant que motard dans la circulation où on n'est pas toujours bien vu. Quand je dis bien vu, c'est pas seulement bien
oui,
considéré,
oui,
c'est
pas, la force des choses,
pas forcément bien vu parce qu'on n'est pas repéré. Les automobilistes s'attendent à voir des parallélépipèdes rectangles et pas forcément une moto qui a une saillance visuelle, c'est-à-dire que, qui dans le rétroviseur n'est pas forcément visible comme peut être visible une voiture qui arrive de loin, par exemple, ne serait-ce que ça. Donc les motards, c'est pour ça que les motards sont très attentifs à leur sécurité et à leur placement sur la chaussée. Et ils préfèrent être agiles et pouvoir déboîter, etc.
Donc du coup, des actions de prévention qui sont très importantes pour vous. Alors, vous avez évoqué les réunions, on n'a pas le temps de poser toutes les questions. Donc il faut quand même qu'on ait quelques minutes pour aborder le deuxième sujet qui m'a conduit à vous inviter, l'économie sociale et solidaire. Alors rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, je pense que beaucoup d'auditeurs ne le savent que peu, qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire ? À quoi ça correspond ? Et quel poids ça représente ?
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire, si on fait le focus sur l'Occitanie, hein, sur la région Occitanie, ce sont pas loin de 22 établissements employeurs, l'ESS. Alors, ce sont des associations.
22 000.
22 000, oui. J'ai dit 22 000. Et pas loin de 250 000 salariés. Donc, c'est quand même pas neutre.
Bien sûr.
Ce sont les associations, ce sont les mutuelles, alors que ce soit des mutuelles d'assurance comme la mutuelle des motards ou des mutuelles santé, celle code de la santé, ou des coopératives, beaucoup de coopératives, des banques, des assurances, coopératives, même des coopératives tout court. Hein, dire, sur Montpellier, voilà, il y a quelques coopératives un peu emblématiques, Hoc Consigne par exemple, hein, voilà, qui est un peu dans l'actualité aujourd'hui, sur métropole.
Ah, oui, j'imagine que vous les connaissez. Ici même.
C'est ça. Donc aujourd'hui, ça représente 10% des établissements employeurs, donc c'est pas rien. Et 12%, pas loin de 12% des salariés.
Des effectifs de salariés.
Des effectifs de salariés. Privés, parce que c'est privé.
Donc
c'est un secteur important. Voilà. Et dans une grande diversité.
De taille et de domaine d'activité.
Ah oui,
très large. Ne serait-ce qu'à cette association. Qui n'a pas de contact avec une mutuelle, avec une compagnie, a fortiori avec une association. Ici même, bien entendu, c'est une association qui porte depuis l'origine la Divergence FM, vous le savez. Alors, lors de votre élection à la présidence de la Crèce Occitanie, vous avez indiqué qu'elle doit devenir la quatrième chambre consulaire aux côtés des puissantes et historiques institutions que sont les chambres régionales de commerce et industrie, des métiers de l'artisanat et de l'agriculture. Pourquoi la Crèce doit-elle, selon vous, conquérir cette place, sa juste place aux côtés des trois autres ?
Ma formulation précise, moi, c'est que la Crèce, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, soit considérée comme la quatrième chambre consulaire. Parce que nous intervenons sur le territoire. Vraiment auprès des entreprises de l'ESS. Alors d'abord, le premier rôle de la CRES, c'est de les représenter, les fédérer.
Oui.
Donc ça, c'est un rôle important.
Y compris quand il faut aller frapper à la porte de la région
ou
des services de l'État.
Ou de la métropole, ou des départements, etc. Et puis le deuxième rôle, c'est d'appuyer, de les épauler dans le cadre du développement, de les conseiller, mais aussi de les épauler, d'indiquer les financements, etc. Et donc de faire l'interface aussi parfois avec les collectivités territoriales ou avec l'État, comme vous dites. Donc c'est un rôle qui est très proche de celui qui est
tenu. Mais il n'est pas plus reconnu ce rôle où vous heurtez. Est-ce que vous heurtez en contre de la méconnaissance, de l'incompréhension, voire, le mot était peut-être un peu fort, du mépris ou du dédain à l'égard de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous rencontrez cet état d'esprit ?
C'est pas du dédain, c'est pire, c'est de la méconnaissance. Donc il y a une part d'ignorance et puis une méconnaissance. Alors que chaque citoyen, quasiment, on peut dire que tous les citoyens ont... 5, autour 10, d'eux, même eux, ils fonctionnent avec...
entreprises de l'ESS, oui.
Avec des entreprises de l'ESS, que ce soit des associations, mutuelles, etc. Mais sans en avoir... L'association des boulistes dans une commune, c'est une association qui relève de l'ESS. Et que donc, voilà, on les représente également. On peut les épauler pour qu'ils trouvent des financements, etc. C'est plus de la méconnaissance. Et effectivement, la loi de 2014... La loi Benoît Hamon, comme on l'appelle.
Benoît Hamon, monte cette loi. Il était à l'époque ministre,
délégué
à l'économie
de
l'ESS. Et sans cirer les pompes de l'ancien candidat à l'élection présidentielle, c'est une loi fondatrice qui a été déterminante.
Qui venait la place, mais aussi la manière de fonctionner. Et y compris dans la manière de fonctionner, il y a les financements. C'est vrai que de ce point de vue-là, ça n'a pas forcément suivi. Tout n'a pas suivi. Tout ce qui est inscrit dans la loi 2014 n'a pas forcément été suivi d'effet derrière. Et il y a encore des progrès à faire.
Oui. Benoît Hamon, je le cite, il indique, j'imagine que vous connaissez ce chiffre, que les CRES sont financées 50 fois moins que les CCI. Donc, alors, il y a peut-être une différence de taille cumulée de ces deux grands secteurs, mais ça laisse penser quand même qu'il y a du chemin à faire pour que vous conquériez votre juste place.
Oui, il y a encore du chemin, sachant que aujourd'hui, du chemin pour être regardé pour ce que nous sommes, hein, les chiffres que j'ai donnés, 10%
de l'employeur et
12%, c'est quand même pas neutre, et sur des secteurs très très variés, et dans le quotidien des citoyens, et notamment sur le territoire de l'Occitanie, c'est très vrai, mais c'est surtout pour être pris en compte. C'est-à-dire que aujourd'hui, on fait partie des discussions. On discute la CRES. Sarah Rousseau, la directrice générale de la CRES Occitanie, elle discute avec les services de la métropole, avec les services de la région, etc. Et on est partie prenante des projets, de certains projets qui sont cofinancés, qui sont épaulés et soutenus par des collectivités territoriales. Donc, on discute avec eux. Simplement, lorsque on présente les chambres consulaires, on ne cite pas
la CRES.
On s'appelle la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire.
Les autres ont le fauteuil sur le podium, mais vous restez un peu à la porte.
On a un strapontin, donc il faut se manifester. J'estime que ça doit être une responsabilité partagée. Nous, au niveau de la CRES, on doit faire le job. Se signaler et être présent, certes, mais on doit aussi être pris en compte, reconnu par les collectivités territoriales pour ce que nous représentons en tant qu'acteurs. Et c'est du quotidien. Et ça participe au développement. Si on fait le focus sur la métropole, Montpellier-Rennes,
vous travaillez avec
on est
partie
prenante. Le projet de la Cagette, aux consignes qu'on évalue, la Cavale, c'est pareil. Ce sont des projets qui,
dans lesquels... Dans la Cavale Libérée Coopérative, bon,
oui,
qu'on a accueilli aussi.
Oui, bien sûr, exactement. Donc typiquement, la Cavale, il y a une participation future avec eux, donc sur 2025. Donc on est partie prenante, donc on participe. Donc l'idée, c'est simplement qu'on soit considéré et qu'on soit reconnu pour ce que nous faisons réellement. Juste ça.
Dernière question, mais qui est dans le prolongement de vos propos. Quelle est l'idée reçue, l'idée fausse sur l'économie sociale? Vous la rencontrez, cette idée, ça vous agace, ça vous exaspère. Vous essayez de la démonter. C'est quoi l'erreur ou la fausseté la plus flagrante sur l'économie sociale et solidaire qui participe, je dirais, de la méconnaissance que vous décriviez il y a quelques instants?
Ça fait écho à ce que j'évoquais sur la part que représente l'ESS dans le quotidien des Français et même en tant qu'acteur économique et social, c'est que on considère que c'est marginal, l'ESS.
Voilà, c'est ça. Il y a l'idée que vous seriez
c'est marginal.
Un petit bout là.
Voire même, on s'occupe des secteurs qui sont des secteurs un peu marginaux.
Oui, pas très intéressant, pas très rentable.
Alors qu'en fait, c'est central. Oui. Moi, j'aime bien prendre Benoît Hamon, lorsqu'il est venu à la table ronde à l'occasion de l'Assemblée générale de la CRES en juillet dernier, il a utilisé un exemple, et je trouve qu'il est emblématique. Il le reprend d'ailleurs quelques fois. Il a interpellé l'auditoire, l'assistance, en disant « Mais imaginez que tous les bénévoles de France et de Navarre fassent grève en même temps. La France s'arrête !» Oui. Parce que qui va s'occuper des gamins sur les associations sportives? Qui va les chercher à l'école? Qui va s'occuper d'eux? Il y a des crèches, il y a des EHPAD, il y a des associations sportives, etc. Qui va s'occuper du troisième ou du quatrième âge à domicile, etc. Avec une part de bénévoles, il y a bien évidemment
bien
des salariés.
Il y a
une part de salariés, mais ça ne fonctionne pas sans bénévoles. Et d'ailleurs, Divergence FM...
Ah, mais des agences FM,
vous
oui,
êtes 100% bénévole.
Ouais, ouais, non, il y a quand même deux salariés, pas
des animateurs, il y a,
pas
y a,
plus,
y a
et
deux
après,
salariés.
Voilà, il y a plusieurs dizaines de collaborateurs de la radio.
Exactement.
Qui sont bénévoles, bien sûr. Ouais.
Et voilà, et si, c'est pareil pour la Mutuelle des Motards, alors qu'on est une entreprise installée, etc. On a bientôt 500 salariés. Et on a pourtant 100 bénévoles. Et sans ces bénévoles, le projet de la Mutuelle ne peut pas se développer parce que
vous l'avez
ce
dit
qu'ils incarnent...
au début et
oui.
Vous le dites en conclusion.
Et je le dis à la fin parce que c'est vrai que mon chasuble, c'est un chasuble Mutuelle des Motards.
Très bien.
Avant tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est avec ce chasuble que j'ai brillé la présidence.
Cette légitimité particulière.
Voilà, parce que ça me paraissait important que la présidence de la CRES soit portée par un acteur en
oui,
activité
qui sait ce que c'est
dont
que,
le siège ouais. social national
Et
ici, dans l'Occitanie et sur la métropole de Montpellier.
Très bien, je vous remercie Patrick Jacquot, à une
Merci
prochaine fois.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarrobe.
Donc vous êtes une Montpelliéraine pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.